Cher François, bonsoir.
Bonsoir Daniel.
Alors François, tu es ingénieur initialement de l'école supérieure de physique et chimie de Paris, docteur en physique, professeur à l'université de Paris 12, c'est-à-dire Créteil. Tu es aussi directeur du LISA, ça veut dire Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques. Et ce laboratoire groupe 80 personnes qui travaillent sur les atmosphères planétaires, non seulement terrestres mais toutes les planètes. Et un petit mot du LISA, il est né comment? C'est toi qui l'as créé, non?
Non, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est un collègue et ami qui s'appelle Gérard Toupens et qui a dirigé le laboratoire pendant quelques années et puis qui a passé la main, mais qui continue d'être extrêmement actif, mais qui lui travaille, alors qu'il a travaillé au début sur les problèmes d'origine de la vie, justement, il a dévié dans un autre sens, vers les problèmes de pollution atmosphérique, et donc il s'occupe d'un des axes très importants du laboratoire sur ce thème. Nous sommes une majorité de chimistes, mais il y a aussi des physiciens, des géologues et des gens qui sont à la limite presque de la biologie. Donc tous ces gens travaillent ensemble et c'est la raison pour laquelle on peut aborder des thèmes aussi pluridisciplinaires que l'exobiologie.
Alors le champ de recherche, ton champ de recherche François Rollin, c'est l'étude des conditions de formation d'une part et des possibilités de détection de la vie ou du moins des composés organiques dans les environnements planétaires. Parce que c'est une condition. Et effectivement, tu fais des études de chimie organique extraterrestre, notamment associées, d'une part, au satellite Titan, qui est le plus grand satellite de Saturne, et ça grâce à la mission Cassini-Huygens, qui était lancée en 1997. Et là, tu as été nommé scientifique interdisciplinaire pour la chimie et l'exobiologie. Ensuite, il n'y a pas que Titan, il y a aussi les comètes, avec le projet Rosetta, qui sera lancé en 2003. Et là, tu es impliqué dans la conception d'instruments scientifiques pour la détection de composés organiques. Et alors, tu es aussi associé aux missions d'observation de la planète Mars.
Mars, on commence. Mars est assez récent comme activité au LISA. Nos principales activités ont été effectivement liées à Titan, dont je parlerai ce soir, et depuis 5 ans maintenant aux comètes. Et effectivement, la plupart de nos activités sont directement liées à des missions spatiales qui sont soit déjà en cours, soit prévues, soit en préparation.
Et je suppose que le chimiste que tu es, toi, à l'inverse, du moins à l'origine, a été séduit par la mécanique du vivant, et que c'est ça qui t'a porté à étudier l'émergence de la vie sur Terre, et par voie de conséquence, les possibilités de présence de la vie sur d'autres planètes. Est-ce que c'est un peu ça, le cheminement?
C'est tout à fait ça, en fait. Moi, je me suis d'abord intéressé... Bon, j'étais dans un laboratoire qui était un des rares laboratoires, il y a, j'ose à peine le dire, plus de 30 ans, à travailler sur les problèmes d'origine de la vie en France. Et bon, je pense qu'on est tous... on a tous un peu des modèles. J'étais extrêmement... sensible au développement et aux recherches qui étaient faites à l'époque par un Français qui est décédé il y a relativement peu de temps, qui s'appelle René Buvet. Et à l'époque, Gérard Toupens et moi-même avons donc continué de travailler dans ce domaine-là. Et quand Buvet a passé la main, Gérard Toupens et moi-même avons décidé de continuer à développer des recherches sur l'origine de la vie. C'est vrai, c'est un domaine qui est passionnant, qui fait intervenir là aussi énormément de disciplines complémentaires. Et je pense que dans ce domaine-là, la chimie, justement, est un domaine qui est central. Et donc, c'est la bonne approche, et c'est une approche de chimiste qu'on a suivie. Il y a maintenant pas mal de monde en France qui ont la même approche. Et progressivement, on s'est rendu compte que pour comprendre l'origine de la vie, il fallait aussi aller voir ailleurs, et qu'il y avait des liens tout à fait indispensables avec la planétologie. Donc, progressivement, avec d'autres collègues, j'ai dévié vers l'étude des planètes, et plus spécifiquement, l'étude de la chimie des molécules carbonées dans des environnements extraterrestres.
En astronomie, on a constaté qu'effectivement, il existait, non pas des briques de matière vivante, encore que, mais en tout cas des prémices de ces briques-là, ce qu'on appelle les molécules carbonées ou hydrocarbonées. Alors bon, est-ce que on va peut-être y revenir tout à l'heure, parce que c'est peut-être aussi un des mécanismes d'ensemencement de la Terre, de ces molécules-là, mais il y a eu de tout temps, avant même les recherches sur l'origine de la vie, il y a eu des recherches sur les molécules carbonées interstellaires. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme molécules avant qu'on s'y intéresse pour la vie?
Je pense en fait que les études sur l'origine de la vie sont antérieures à la découverte de cette chimie du carbone dans d'autres environnements et en particulier dans les nuages interstellaires. La découverte de molécules carbonées, il y a actuellement, on a découvert à peu près une centaine de composés de molécules interstellaires, en grande majorité carbonées, mais cette découverte, elle date des années 60 à peu près. La première molécule n'était pas carbonée, d'ailleurs c'était de l'ammoniac et de l'eau, en mettant à part l'hydrogène. Les molécules carbonées sont venues plus tard, bien après que l'on s'intéresse à ce problème clé de l'origine de la vie.
On va peut-être rappeler comment cette vie, enfin comment on pense que la vie est apparue sur Terre il y a plus de 4 milliards d'années, quelles ont été les grandes étapes à peu près, hein, du moins dans les premiers balbutiements entre la matière inanimée et les premières briques de matière vivante.
Oui, là en fait il y a plusieurs scénarios, je ne vais pas passer tous ces scénarios en détail, disons actuellement ce que l'on pense c'est que... Il y a eu des processus chimiques. L'origine de la vie, c'est une origine chimique de la vie. Il n'y a pas de création surnaturelle, si je puis dire. Ce sont des processus naturels, des processus chimiques, et une chimie qui est celle qu'on peut reproduire en laboratoire avec une grosse contrainte, c'est la contrainte de temps. Nous, pauvres humains, nous avons du mal à faire des expériences qui durent plus que quelques dizaines d'années. La vie a dû utiliser des millions d'années, voire peut-être des dizaines de millions d'années pour apparaître ensuite de cette chimie. Donc on a du mal à reproduire en laboratoire, mais on peut essayer d'en voir les prémices. Alors ce que l'on pense actuellement, c'est qu'une partie de cette chimie vient en fait de l'extérieur. Comme tu disais, c'est sans doute une importation de matériaux extraterrestres qui a permis à la vie d'apparaître sur Terre. Mais ce n'est pas la vie qui est venue d'ailleurs, c'est les matériaux, les ingrédients indispensables à cette vie. La cuisine s'est faite sur Terre ensuite. Alors, l'autre ingrédient, c'est l'eau liquide. On pense que c'est indispensable et c'est le mariage entre la matière faite de carbone et l'eau liquide qui, par cette évolution chimique, peut conduire à la vie. Alors, maintenant, une autre théorie dit que mais il n'y a peut-être pas besoin des matériaux extraterrestres. Peut-être que, finalement, tout s'est passé dans les océans primitifs, mais pas dans n'importe quelle place de ces océans primitifs, dans des sources hydrothermales sous-marines analogues à celles que l'on connaît actuellement. Donc, du volcanisme sous-marin qui se trouve à très, très grande profondeur, là où il y a une pression très forte de l'eau, où il peut y avoir des gaz très très chauds et des gradients de température extrêmement importants. Le mélange de cette eau sous forte pression, de minéraux soufrés, en particulier de solides catalyseurs, et de gaz chauds venant du volcanisme sous-marin, tout ça a pu conduire à ces prémices d'une chimie donnant des composés organiques et des composés carbonés complexes. Donc c'est deux théories qui ne sont pas opposées, qui sont complémentaires, et que l'on commence maintenant à essayer de tester, soit sur le terrain, soit en laboratoire.
Et je crois que donc on a fait des expériences pour valider en quelque sorte ces hypothèses. Il y a eu l'expérience célèbre de Stanley Miller en 1953, que tu connais d'ailleurs. Tu pourras peut-être en parler un petit peu.
Elle a surtout un rôle historique, l'expérience de Miller, parce que la théorie qui va avec n'est pas plus tellement valable dans la mesure où Miller partait de l'hypothèse d'une atmosphère faite de méthane et on pense qu'aujourd'hui l'atmosphère terrestre n'a jamais contenu assez de méthane pour que ça puisse se faire.
Oui, je crois ce que j'avais lu effectivement c'est qu'il s'était un peu trompé du moins dans les ingrédients mais il n'en reste pas moins qu'il a eu raison sur l'essentiel de ce qu'il a proposé et que ça l'a été par la suite, ça n'a été qu'affiné bien entendu ou du moins actualisé par rapport à ce qu'on savait de l'atmosphère primitive. Alors ce qui est important c'est qu'effectivement on avait une atmosphère primitive. Alors, rappelons peut-être cette atmosphère primitive, elle est quand même venue de l'intérieur de la Terre. Non.
C'est ce que l'on pense avec certaines idées que peut-être les comètes ont contribué aussi à alimenter une partie de l'atmosphère. Enfin, la grande idée, c'est que c'est un dégazage du manteau terrestre qui a construit l'atmosphère. Et donc l'atmosphère était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. En particulier, il n'y avait pas d'oxygène moléculaire. Aujourd'hui, l'atmosphère est faite de 77% à peu près d'azote et 21% d'oxygène, qui est là fort heureusement pour nous, mais qui n'a pas toujours été là. Et en fait, c'est intéressant de savoir que cet oxygène que l'on respire, c'est la vie qui l'a produit. Et qu'il y a 4 milliards d'années, il n'y avait pas sans doute un fifrelin d'oxygène moléculaire dans l'atmosphère. Donc, fort heureusement pour les premiers systèmes vivants qui sont apparus sur Terre, il n'y avait pas d'oxygène. Et cet oxygène, ce sont ces systèmes qui l'ont apporté progressivement, donc des micro-organismes d'abord, et puis ensuite, beaucoup plus tard, les plantes et les micro-organismes que l'on connaît aujourd'hui. Donc déjà, une grosse différence. Une autre différence, c'est qu'au départ, l'atmosphère terrestre devait contenir énormément de gaz carbonique, CO2. Et qu'il y en a beaucoup moins maintenant, heureusement aussi pour nous, parce que la plupart des systèmes vivants n'aiment pas beaucoup être dans une atmosphère trop riche en ce gaz. Donc l'environnement était ça au début, et progressivement il a évolué, bon, par des mécanismes géochimiques, il s'est transformé, il est ce qu'il est aujourd'hui. Et la vie a joué un rôle tout à fait important dans cette transformation.
Darwin avait dit que la vie devait être née dans une mare chaude.
Oui, c'est vrai que finalement, quand on a relu les écrits de Darwin, ce sont dans des lettres qu'il échangeait avec des collègues, ce n'est pas dans ses bouquins. Quand on relit ces lettres, on se rend compte qu'il y avait déjà les prémices de cette théorie de l'évolution chimique, une évolution chimique comme origine de la vie. Mais on s'en est rendu compte bien après que Darwin ait disparu. Darwin a joué un rôle tout à fait fondamental dans les questions d'origine de la vie, non seulement parce qu'il a révolutionné bien sûr les sciences biologiques, c'est mieux que moi, mais aussi finalement parce qu'il a colossalement simplifié le problème. Grâce à Darwin, on peut dire qu'on aura compris la vie sur Terre en comprenant l'origine d'un ancêtre commun, une bactérie primitive, simple, sans doute beaucoup plus simple que celle qu'on connaît actuellement. Donc c'est quand même beaucoup simplifié le problème qui est actuellement comment comprendre l'origine de tous les systèmes vivants qui sont sur Terre.
Et je crois aussi, oui, l'apport de Darwin, c'est un peu ce que tu sembles dire, c'est essentiellement d'avoir introduit le concept d'évolution dans les molécules, de l'avoir transféré des êtres vivants aux molécules chimiques qui ont elles-mêmes évolué. Les systèmes et les systèmes prébiologiques ont subi de la sélection naturelle. Ce concept de sélection, c'est Darwin.
Oui, le concept de sélection, il existe déjà finalement au niveau chimique. Alors, Darwin ne le voyait pas comme ça, mais on peut extrapoler l'idée de Darwin au niveau chimique, oui.
Alors on est certain, bien sûr, maintenant que les matériaux de la vie, les briques, ce qu'on appelle les briques de matière vivante, les acides aminés, les sucres, les sucres élémentaires, toutes sortes de composés qui sont toujours constituants de nos cellules, sont apparus très tôt dans l'histoire de la Terre, et puis on finit par s'organiser, puis après c'est une question de temps, je suppose. Il faut combien de temps à peu près pour passer du minéral aux premières, on pourrait dire, aux premières protocellules, en gros?
Oui, alors là, c'est une question que personne ne peut, à laquelle personne ne peut répondre de façon vraiment claire, parce qu'on a perdu toutes les traces de ce qui s'est passé. Les traces géologiques les plus anciennes remontent à peu près 3,8 milliards d'années. Or, les processus d'apparition de la vie, on les situe à peu près à 4 milliards d'années. Combien de temps a-t-il fallu pour répondre à ta question ? Certains disent moins d'un million d'années, d'autres disent plusieurs dizaines de millions d'années. Donc tu vois la marge d'erreur. Et le problème est que nous n'avons plus aucun indice de ce qui s'est passé à l'époque, si ce n'est nous.
En tout cas, que ce soit effectivement un million d'années, ce qui paraît très court, ou 100 millions d'années, c'est un chiffre un peu qu'on rencontre en moyenne, ça c'est quand même assez court dans l'histoire d'une planète, ce qui veut dire qu'en fait, lorsque l'on réunit les conditions, les bonnes conditions, ça peut aller très vite dans l'histoire d'une planète.
Oui, tout à fait. Quand on regarde l'âge de la planète Terre, 4,55 milliards d'années, les chiffres que tu viens de dire... C'est un petit pourcentage. En revanche, une fois que la vie est apparue, il a fallu beaucoup de temps pour évoluer vers une vie plus complexe, vers des systèmes pluricellulaires. Donc là, c'est encore une autre histoire.
Oui, après, c'est une histoire, effectivement, de d'équilibre atmosphérique, conquête de la Terre, lorsqu'est apparu l'écran d'ozone, et après, ça nous éloigne un peu de l'astronomie, parce que ce qui va être intéressant, et ça, on en arrive à la deuxième partie de cette interview, c'est effectivement la meilleure connaissance des mécanismes qui ont présidé à l'apparition de la vie sur Terre. Ça va nous servir, en fait, de base pour comprendre, d'une part, comment ça a pu se passer ailleurs que sur Terre, et peut-être aussi pour savoir un peu ce qu'on va chercher, si on veut chercher la vie. Et c'est un peu là-dessus que j'aimerais que tu répondes. Qu'est-ce que, maintenant, est-ce que, d'une part, qu'est-ce que on va chercher, si on veut chercher la vie ailleurs? Est-ce que ça va être l'oxygène? Est-ce que ça va être autre chose par rapport à ce qu'on sait? Et deuxièmement, par quels moyens est-ce qu'on a des projets là-dessus?
Oui, enfin, il y a beaucoup d'approches possibles. Si on se limite au système solaire, par exemple, là, on peut, à la limite, aller voir sur place avec des sondes automatisées ou même avec des hommes, avec des êtres humains. Bon, c'est ce qu'on a fait sur la Lune. Quand on est allé sur la Lune, on est allé voir s'il n'y avait pas, par hasard, des micro-organismes. On n'en a pas trouvé. C'est ce qu'on a fait sur Mars, non pas avec des êtres, avec des humains, mais avec des systèmes automatiques. Et on a effectivement cherché des traces de vie. On n'en a pas trouvé non plus. Mais on a regardé qu'à un seul endroit. On n'a pas regardé très très loin, très très profondément. Donc il faut qu'on y retourne avec cet objectif. Les autres possibilités. Donc on peut aller chercher des signatures chimiques de la vie, c'est-à-dire la présence d'acides nucléiques, pourquoi pas, ou la présence de systèmes plus simples, d'acides aminés, ou des sucres et des bases puriques qui constituent les acides nucléiques. On peut aussi être encore moins ambitieux et aller simplement chercher la présence de molécules carbonées. Mais là, on ne sera pas sûr si on en trouve qu'elles sont dues à la présence de vie. Mais je dirais, il y a deux types de recherches actuellement qui sont d'intérêt exobiologique important, par exemple au niveau du système solaire. Le premier, c'est d'aller dans des endroits où l'on a une chance de trouver des systèmes vivants. Et ce sont des endroits qui doivent contenir de l'eau liquide et qui doivent contenir de la matière organique. Et il y en a quelques-uns qui sont définis actuellement en dehors de la Terre, dans notre propre système solaire. Et l'autre approche exobiologique, c'est d'aller dans des endroits où on a très peu de chances de trouver la vie, parce que les conditions sont très hostiles, soit parce qu'il fait trop froid, soit parce que, ce qui peut être lié, il n'y a pas d'eau liquide. Mais en revanche, il y a des processus qui s'y déroulent actuellement, qui sont analogues aux processus qui ont conduit à la vie sur Terre. Il n'y a pas tout ce qu'il faut, mais il y a une partie de ce qu'il faut. Et en allant voir ces endroits, c'est un peu comme si on retournait voir la Terre il y a 4 milliards d'années, et ça doit nous permettre de mieux comprendre l'origine de la vie sur Terre.
Et il n'y a pas des signatures chimiques autres, indirectes, par exemple la présence d'un gaz spécial, une atmosphère ?
Si, il y a effectivement ces signes-là. Par exemple, la présence simultanée de gaz très réducteurs chimiquement, comme le méthane, et d'oxygène moléculaire, c'est un signe de déséquilibre d'une atmosphère. Une explication en origine de ce déséquilibre, c'est qu'il y a une activité biologique quelque part sur la planète. Et effectivement, une des bonnes signatures serait l'ozone, parce que l'ozone est facile à voir, beaucoup plus que l'oxygène moléculaire, et rechercher des traces de vie peut être recherché s'il y a de l'ozone présente en quantité abondante dans une atmosphère. Et c'est une approche que l'on envisage de suivre pour essayer de mettre en évidence la vie dans des planètes extrasolaires.
Et alors ça m'amène à une de mes dernières questions, effectivement, et donc on a parlé en introduction de deux missions, donc Cassini-Huygens sur Titan et Rosetta sur une comète. Qu'est-ce que, effectivement, tu peux nous parler un peu des projets avec ces deux missions Rosetta et Cassini-Huygens?
Oui, alors, ce sont des missions extrêmement ambitieuses. Bon, la mission Cassini-Huygens a pour objectif d'aller explorer Saturne et ses satellites, et d'aller explorer encore plus en détail Titan. Avec un vaisseau qui va se mettre en orbite autour de Saturne et qui va larguer une sonde dans l'atmosphère de Titan. Le vaisseau s'appelle Cassini, il est américain majoritairement, et la sonde s'appelle Huygens, elle est européenne. Et cette sonde, ce qu'elle va faire, elle a 6 instruments à bord, elle va descendre lentement dans l'atmosphère de Titan, et elle va déterminer la composition chimique de façon très fine de cette atmosphère en mesurant un certain nombre de composés organiques, Certains, on les connaît déjà, d'autres, on suppose qu'ils sont présents, on ne les a pas encore vus. Et donc, Huygens va essayer de les rechercher, de les mettre en évidence. Huygens va aussi essayer de mettre en évidence s'il y a des liquides à la surface. Alors, c'est peut-être un peu loin de la vie, tout ça, parce que Titan est un satellite très froid, n'a pas d'eau liquide, mais Titan est très riche en composés organiques, et Titan a sans doute de l'eau solide à sa surface. Donc, en allant voir actuellement Titan de plus près, on devrait justement, comme je le disais tout à l'heure, avoir des informations sur certains des processus chimiques qui sont déroulés sur la Terre primitive et qui ont conduit à l'apparition de la vie, à une différence près, l'absence d'eau liquide.
On a comparé Titan avec André Braik à une Terre qui aurait été mise au congélateur peu après sa naissance, oui.
Oui, oui, c'est tout à fait ce qu'on peut dire. Donc voilà, ça c'est pour Cassini, arrivé en 2004, donc c'est dans pas très longtemps. Cassini-Huygens, je devrais dire, pour ne pas oublier la partie européenne. Et l'autre mission qui, elle, est essentiellement européenne, la mission Rosetta, c'est une mission aussi de très longue haleine, puisqu'elle sera lancée en 2003 pour atteindre une comète en, attention, 2011. Temps de transfert, donc 8 ans. Cette mission, on la prépare depuis déjà 4-5 ans. Donc, on peut faire un rapide calcul pour voir combien de temps ça prend depuis le départ. Et cette mission, une fois qu'elle arrive à une comète, là, c'est pareil, il y a un vaisseau et il y a un atterrisseur, si je puis m'exprimer ainsi, qui va être largué, qui va être déposé à la surface du noyau cométaire. Et ce largage et cette dépose devraient avoir lieu à peu près un an après que le vaisseau principal Rosetta atteint la comète. Ça veut dire que le vaisseau va suivre la comète pendant plusieurs années, puis au bout d'un an va larguer cette sonde. Et cette sonde de surface va se poser, va faire du forage, prendre des échantillons du noyau, analyser chimiquement ces échantillons, rechercher de la matière organique complexe, et rechercher, c'est la première fois qu'on le fait dans une mission spatiale, planétaire, rechercher s'il y a des molécules chirales. C'est-à-dire, pas des molécules qui ne sont pas contentes, des molécules qui ont la propriété de ne pas être superposables à leur image, comme le sont beaucoup des molécules du vivant. La vie ne se sert qu'une des deux, et les deux ne sont pas interchangeables. Or, il se trouve que dans certaines des molécules qu'on s'attend à trouver dans le noyau cométaire, il y a des molécules qui ont cette propriété, mais en toute rigueur, elles devraient être présentes 50% chacune des deux formes. Or, on n'est pas sûr de ça, parce qu'il y a eu des découvertes récentes dans certaines météorites qui sembleraient montrer qu'il y a un léger excès d'une forme par rapport à une autre. Donc, en allant voir dans le noyau cométaire ce qui s'y passe, on va aussi résoudre ce problème qui a un impact très important sur l'origine de la vie, parce qu'il doit permettre de mieux comprendre pourquoi nous sommes faits d'acides aminés, par exemple L, et non pas D.